Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus par ange,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je pas toucher. Il y a quand même curieux. 100 fois, tu dis, jamais tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 25 novembre, c'est la Sainte Avenir Lycéen. Sainte Avenir Lycéen est le saint patron des premiers de la classe. Tu sais, les faillots du premier rang, les petits arrivistes du macronisme déclinant, les bébés Rastignac d'une éducation nationale totalement blanquérisée, jusqu'à la moelle, pourrissante. Et c'est pour ça que tous les petits asticots s'agitent. De quoi s'agit-il? Saint Avenir Lycéen a été conçu dans ces arcanes labyrinthiques où pullulent, telle la vermine, des inspecteurs académiques, des hauts fonctionnaires bureaucratiques et des pédagogues dégueulasses qui ne songent qu'à une seule chose, polluer la jeunesse avec les idées malades qui gouvernent leurs esprits et au-delà tout entier, le pays. Alors un jour, voyant craquer de partout cette institution moisie, et alors que les gilets jaunes gesticulaient dangereusement dans les rues, le grand maître Blanquer eut une idée diabolique. Créer un syndicat lycéen à sa botte. Un syndicat maison quoi. Hein, des jaunes. Ben ouais, ils avaient même pensé à l'appeler CFDT jeunes. Ouais frérot. Mais ça faisait trop gros. Ben ouais, c'est comme les patrons dans les boîtes. Ils s'arrangent pour que les faibles, les suceurs du premier rang, les vocations d'indic, toute la smala de la fils de puterie possible et imaginable en milieu subhumain, se rangent à leur petite godasse vernie par la lèche de la soumission. Et puis après, ils les dirigent contre les rouges. Ceux-là, au fond, là, dans l'usine, qui se collent au radiateur, dans les derniers rangs, et qui jettent des boulettes sur nos bilans comptables. Pff, non, sérieux, ouais, vrai, faudrait refiler des LBD aux profs et aux DRH, non ? En fait, ce qui se passe, c'est que les salopards là-haut, complètement affolés par la baisse tendancielle du taux de profit, coincés dans leurs contradictions comme le Maccabée dans son tombeau, ils préparent le terrain. Le terrain de la guerre sociale qui vient, ouais. Alors pour tenter de dégonfler les aspirations émeutières de la racaille lycéenne, on a songé à instrumentaliser, finance à l'appui, ouais, comme dans la mafia, des petits boutonneux socialistes. Sans avoir peur des pléonasmes, hein. Pour faire passer les pilules disciplinaires de la réforme. En douceur et profondeur. Ah oui, un peu comme le vicaire avec les enfants de cœur. En d'autres termes, il s'agit bien, pour Blanquer, du chef d'accusation de détournement de mineurs. Préparer le terrain de la guerre sociale, cela passe aussi par un renforcement de la sécurité. La sécurité. La sécurité de Benalla et des siens. Bah oui, nos milices doivent pouvoir éborgner, frapper, mutiler, s'infiltrer dans les rangs de l'ennemi, pourrir ses manifs, sans pour autant être identifiés. Eh oui, c'est ce que déclara GG Lapointe à ses troupes avant l'assaut final. Et plus on est de flou, plus on rit. C'est ce qu'il ajoute en se tapant les cuisses, en songeant à sa dernière partouze. Enfin bon, c'est une autre histoire. C'est pas parce que les violences policières n'existent pas qu'on a le droit de les filmer, hein. Pareil, pour mieux se préparer à la guerre qui vient, il fallait interdire le collectif contre l'islamophobie et continuer d'enfoncer le clou du racisme. Ah bah oui, efficace. Pour mieux diviser l'ennemi et diriger ses flèches contre lui-même. Alors c'est pas des CRS que t'envoies en première ligne, c'est des éditorialistes. Eux, tu peux les prendre en photo, hein, bah oui. C'est même leur métier de vendre leurs petites poires blettes aux plus offrants. Ah ouais, on peut parler de prostitution si tu veux, ouais, si tu veux, ouais. Mais en tout cas, c'est dans ce grand marché qu'ont été vendus quelques adolescents prépubères et canonisés Saint Avenir lycéens. Aujourd'hui, mercredi 25 novembre 2020, le soleil s'est levé au service de cet état, de cette société ruinée que des étudiants respectables espèrent un jour diriger. Il s'est couché en des récréations qui traînent au milieu des journées sans fin. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme
c'est comme
de nous dire que la France avance alors qu'elle pend. Par la répression stoppée net
la délinquance.
S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas l'état d'urgence
à coup sûr.
Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? En effet,
comme le veut la société,
c'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même avant je reste.
Brûle l'État,
policier en premier, et on voit la République brûler au même bûcher.
Ouais.
Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes numéros, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Oh, désarroi, déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Oh, désarroi, déjà roi.
Vous subirez la même pente. Agonie, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence. Mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour
vous?
C'est pas les caisses. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vous? C'est pas les caisses. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vous? C'est pas les caisses. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vous? C'est pas les caisses. Mais qu'est-ce qu'on attend pour vous? C'est pas les caisses. Donc dorénavant la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à faire car nous n'avons jamais eu. À votre place, je ne dormirai pas
tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Élysée brûler les vieux. Et bien, faut bien qu'un jour il pète. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sont nos repères, sont nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Ah, il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ces hondes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même, la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors arrêtons-nous,
plutôt que cela traîne ou ne traîne, même encore plus de haine. Une et bien ne pourra s'élever ce système.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre ce feu? 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 Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre ce feu?
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h06, ou à peu près. À quelle rupture la crise du capitalisme appelle-t-elle? C'est ce soir dans l'heure de le mettre, avec comme intervenant Laurent Brun de la CGT Cheminot et Rémi Herrera, économiste. C'est un débat qui a eu lieu récemment, en ligne, en vidéoconférence, à l'initiative du PCF. Et c'est ce soir dans l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Chers camarades, je veux remercier tout d'abord les organisateurs de cette initiative pour leur invitation à parler, ou plutôt à reparler de socialisme. C'est heureux, car ça fait des lustres que le parti a renoncé à en parler, ou en réalité a renoncé au socialisme tout court, en fait. Et je pense personnellement que c'est notamment à cause de ce renoncement que le parti est là où il est, c'est-à-dire au plus bas. Le problème, c'est qu'en abandonnant le socialisme, qui est une voie, qui est une transition, il a aussi abandonné la recherche de l'idéal communiste, d'où cet état actuel, ou cette impression actuelle de dérive, de perdition même. Donc, je vous avoue me sentir un peu, tout à fait heureux évidemment, mais un peu comme un prêtre ouvrier invité à un concile du Vatican, ou un membre des Alcooliques Anonymes invité à un salon des vins et spiritueux pour dire « il faut arrêter de boire ». Bon, je le dis en plaisantant pour ne pas être trop déplaisant. J'ai accepté d'être là ce soir avec vous, non pas pour diviser, mais pour contribuer modestement, à ma manière, à l'unité de ceux qui veulent parler du socialisme pour engager la transition socialiste, c'est-à-dire pour engager une rupture avec le système dans lequel nous vivons, et dans lequel nous vivons de plus en plus mal. Ce système est en crise. Cette crise ne date pas d'hier, elle remonte à au moins un demi-siècle. Elle est structurelle, grave, gravissime, elle est multidimensionnelle, elle est systémique, c'est-à-dire que le système ne trouve plus de solution par sa logique, de lui-même. Ça veut dire que le capitalisme décline, que le capitalisme dégénère. Et s'il ne s'effondre pas rapidement, disons, c'est fondamentalement parce que son État le soutient à bout de bras, comme ça a été le cas en 2008, au moment où le pan financier du système s'est écroulé, comme c'est à nouveau le cas à l'heure actuelle, dans la crise dite sanitaire, quand l'économie survit sous perfusion. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas d'issue aux problèmes sanitaires avec ceux qui détruisent l'hôpital public et les services publics en général, ni d'issue aux problèmes financiers avec des banques qui spéculent, pas d'issue au problème environnemental avec des écologistes plus néolibéraux les uns que les autres, pas plus qu'il n'y a eu d'issue aux problèmes sociaux avec les sociolibéraux du PS et autres de même farine, disons. De même qu'il n'y aura pas non plus d'issue au problème du terrorisme religieux avec des marchands du temple qui ont affaibli l'éducation nationale et la laïcité en les vendant aux plus offrants, en les vendant aux privés, confessionnels de surcroît. Alors, le capital, le capital ne trouvera jamais de solution par sa logique de profit, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler ici, mais disons, à grands traits, parce que les technologies qui sont maintenant à l'œuvre dans le système capitaliste économisent beaucoup de travail humain, beaucoup trop de travail humain, et sapent la création de valeur. Parce que le travail improductif gagne de plus en plus de terrain sur le travail productif, parce que les contradictions du capital exigent une intervention de l'État qui coûte de plus en plus cher, mais aussi parce que la suraccumulation du capital provient de plus en plus du capital fictif et que la finance, qui domine l'ensemble du système, la haute finance, enferme tout le système dans une spirale de destruction, de conflits, de guerres qui, pour le dire franchement, nous menacent maintenant tous de mort. Donc, vouloir engager une transition socialiste, c'est pas seulement répondre à un esprit de justice, disons. C'est surtout répondre à l'appel de la raison. C'est une question de survie pour l'humanité et pour la vie même. On en est vraiment là, camarades. Le socialisme n'est pas qu'un mot, c'est une lutte, ce n'est pas une fin, disons une finalité, c'est un processus de transition long, difficile, qui peut prendre mille chemins, qui peut prendre mille formes sur la voie de l'émancipation totale, c'est-à-dire sur la voie de la libération du travail, de la domination du capital. C'est ça, le capitalisme, fondamentalement. C'est la domination du capital sur le travail. Alors, certains diront, on a déjà essayé et ça a tourné mal. Mais concrètement, quand a-t-on eu le socialisme dans ce pays? Quand a-t-on même tenté une expérience socialiste dans ce pays? En 1981, ce qu'on a eu, c'est du mitterrandisme et l'invention du néolibéralisme d'État. Ce que j'explique dans mon dernier livre qui s'appelle En lutte. On n'a pas eu de socialisme, on a eu un néolibéralisme d'État. Bon, l'URSS, l'Europe de l'Est, c'est pas un échec, ça? Si, c'en est un. Mais ce que je dirais, c'est que le capitalisme a mis des siècles à émerger et à se dégager du féodalisme. Alors, pourquoi le socialisme, lui, avec des ambitions autrement plus belles, autrement plus justes, n'aurait pas droit au temps long, lui aussi. Et est-il le même partout? Si c'était le cas, il aurait échoué partout. Or, ce n'est pas le cas, du tout. Le socialisme n'a pas échoué partout. On fait croire qu'il a échoué partout pour que les travailleurs abandonnent les luttes, pour qu'ils se soumettent, pour que les peuples du Nord, comme les peuples du Sud, croient qu'il n'y a plus d'alternative. C'est là précisément que les expériences de la Chine, du Vietnam, de Cuba sont intéressantes pour nos luttes. La Chine d'abord, c'est la plus grande réussite économique du monde. C'est même la plus grande réussite économique de l'histoire du monde. Alors nos ennemis nous disent, c'est du capitalisme. Alors nous devrions les croire, nous devrions répéter ça et attribuer le succès chinois au capitalisme. Mais camarades, ces éloges, le capitalisme ne les mérite pas. Ce succès chinois est essentiellement dû au socialisme. Aucune des réussites chinoises n'aurait été possible sans une lutte acharnée contre le capitalisme, sans un contrôle strict des capitalistes, sans une révolution socialiste qui a commencé en 1949, qui a extirpé le peuple chinois de la misère, de la guerre, ça faisait un siècle qu'il était plongé dans la guerre, qui a apporté le progrès social, l'éducation, la santé, les infrastructures publiques, l'indépendance nationale, la dignité. Le socialisme, c'est la dignité. Et les Chinois nous disent, on explore une transition longue au socialisme. Je crois qu'il faut, évidemment qu'il faut garder l'esprit critique, mais on doit aussi rester modeste, pas soumis, mais modeste. On doit chercher à comprendre, à apprendre, on doit se montrer respectueux, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. La Chine est loin, très loin de l'idéal communiste. Il y a trop d'inégalités, trop de défauts à cette étape de la transition, qui est une étape, on va dire, très primitive, entre guillemets, du socialisme. Comment ça finira, j'en sais rien. Mais les Chinois et leurs dirigeants sont jetés dans la bataille de la transition socialiste. L'histoire n'est pas finie. Imaginez une minute, camarade. La France avec une propriété des sols et des sous-sols collectivisés. La plupart des grandes firmes industrielles du pays, sociétés d'État. Toutes les infrastructures, transport, toutes les infrastructures nationalisées. La monnaie, la banque, la finance, contrôlées par l'État. Contrôlées aussi le comportement des firmes transnationales étrangères sur le territoire national. Plus la planification. Et au sommet du pouvoir, pour superviser un État surpuissant, quoi ? Un parti communiste. Alors, imaginez notre pays organisé comme ça, c'est-à-dire organisé comme la Chine est organisée aujourd'hui. Et on dirait quoi ? On dirait c'est du capitalisme ? Bon, on rigole tous. On dirait évidemment que c'est du socialisme. Et il est fort à parier que nos ennemis disent même que c'est du communisme tout court. Non, c'est pas du communisme, on en est très très loin, mais ça peut s'appeler une forme de socialisme de marché avec des capitalistes, bien sûr, mais contrôlé par le pouvoir politique du Parti communiste. Donc la Chine n'est pas communiste, mais la Chine est en lutte avec le capitalisme pour tenter de le dominer. Donc ce que je dis aux camarades, c'est il faut essayer de comprendre tout ça, de penser par nous-mêmes et d'abord de se libérer de l'idéologie dominante, de l'oppression médiatique qui est le principal obstacle à notre liberté de réfléchir, d'être informé et d'informer. Au Vietnam, c'est un peu la même chose depuis le Doi Moi, et c'est-à-dire le renouveau du socialisme, un processus d'économie de marché socialiste commencé après les années très difficiles de l'après-guerre, c'est-à-dire après que les États-Unis, que l'armée des États-Unis ait déversé sur le Vietnam plus de 3 fois la quantité de bombes que tous les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale avaient s'étaient jetés les uns sur les autres. C'est ça qu'a reçu le Vietnam sur la tête. Bon, et le Vietnam est debout, son peuple est debout. Et récemment, ils nous ont montré d'une manière remarquable comment ils pouvaient faire face à la pandémie de Covid-19. Et qu'est-ce qu'on a dit en France ? On a dit les Vietnamiens sont des menteurs, c'est pas possible. Mais c'est notre gouvernement, soumis à la finance, ennemi de tout un peuple qui ment. C'est pas les Vietnamiens. Ils ont réussi à faire face à cette pandémie. Alors, de ces 3 expériences, c'est Cuba qui est la plus éloignée du capitalisme. Et c'est précisément pour cette raison que l'impérialisme s'acharne contre Cuba, par le blocus. Sans le socialisme, Cuba n'aurait jamais pu tenir après la chute de l'Union soviétique. Mais sans la résistance de Cuba, on ne parlerait même plus de socialisme en Amérique latine aujourd'hui. Or, partout sur ce continent, les peuples sont debout et marchent vers le socialisme, chacun à sa manière. Regardez la Bolivie, c'était totalement inespéré. Et ils se sont redressés, ils ont fait face à l'ennemi et ils ont à nouveau gagné et réenclenché un processus de révolution socialiste, leur révolution socialiste. Alors on dira à Cuba, c'est la pénurie, mais c'est le blocus impérialiste qui crée la pénurie à Cuba, pas le socialisme. Il y avait de tout à Cuba avant la chute de l'Union soviétique. Alors évidemment, maintenant, Cuba manque de beaucoup de choses matériellement, mais certainement pas d'esprit de solidarité. Les Italiens le savent, tous les pays africains le savent, et l'immense majorité des pays du tiers-monde, du Sud, le savent très bien, qui reçoivent les soins des différentes missions internationalistes cubaines. Donc, Cuba est pour nous absolument fondamental. Les Cubains prouvent qu'il est possible de résister. En clair, ce que nous apprennent ces trois pays, c'est d'abord qu'il faut résister, même si l'impérialisme impose un blocus, même si l'impérialisme a rasé votre pays. Ensuite, qu'il y a une alternative et que cette alternative s'appelle le socialisme et que c'est au Parti communiste de prendre ses responsabilités. Et enfin, que le socialisme reste d'actualité, qu'il doit, qu'il peut même dépasser le capitalisme, qu'il n'est pas synonyme de pénurie, de manque, d'inefficacité, mais au contraire de partage, de solidarité, d'opulence même, d'opulence, d'une certaine opulence, comme on le voit en Chine aujourd'hui et comme le souhaitaient Marx, Lénine, Mao, dans différents textes. Ils l'ont dit, le communisme, ce n'est pas la misère généralisée, c'est tout le contraire. Alors, ce qu'il faut comprendre, en bref, c'est que le capitalisme est finissant, agonise, qu'il va déchaîner une violence colossale contre les peuples, évidemment, mais que c'est le socialisme solidaire qui marche avec l'histoire. Bon, à part ces leçons importantes, mais générales, que peut-on tirer concrètement de tout cela? Ces trois expériences sont totalement inexportables, évidemment. Elles sont très largement, immensément perfectibles. C'est une évidence. Dans tous les domaines. Mais elle nous intéresse parce qu'elle fusionne trois dimensions qui sont importantes pour nous. La dimension d'émancipation sociale, anticapitaliste. La dimension d'indépendance nationale, anti-impérialiste. Et la dimension de l'humanisme égalitaire, je dirais, antiraciste, l'antiracisme. Bon, et c'est précisément l'articulation de ces trois dimensions qui définit leurs projets communistes respectifs. Alors, même si ces trois révolutions socialistes, qui tiennent toujours, qui sont toujours debout, ont leur singularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrons, nous, trouver nos formes de lutte propres, sans copier quoi que ce soit. C'est à nous d'inventer notre chemin, à nous. Mais ces expériences sont intéressantes parce que l'analyse de leurs ressorts profonds, je crois, est utile pour nous. J'ai dit, elles sont antiracistes, anti-impérialistes, anticapitalistes. Ça veut dire quoi pour nous? Un, l'antiracisme, parce que combattre le racisme de l'extrême droite et du système tout entier, capitaliste à l'échelle mondiale, est devenu une priorité absolue. Pas comme la droite qui monte les communautarismes les uns contre les autres, pas comme la nouvelle droite social-libérale, PS et autres, antiraciste en parole, mais dans ses actes, en fait, hostile, toujours hostile aux luttes populaires, neutralisant les luttes populaires, y compris et surtout celles des quartiers. Non, notre combat à nous contre le racisme n'est pas sociétal. Il est politique, il est socio-économique. C'est d'ailleurs le cas, exactement la même chose, d'autres combats tout à fait fondamentaux liés pour la démocratie, pour l'égalité homme-femme, pour la protection de l'environnement, qui sont, et d'autres, qui sont à placer aussi au cœur de nos luttes pour le socialisme. D'ailleurs, à ce propos, l'islam politique, comme tous les autres fascismes, parce que c'est un fascisme, ne veut absolument pas rompre avec le capitalisme. L'islam politique est même un allié, un complice de l'impérialisme à l'échelle internationale. Donc, ici encore, c'est le choix du socialisme qui sera pour nous le plus sûr rempart contre tous les fascismes, y compris l'islamisme. 2. L'anti-impérialisme. Ça veut dire non seulement mettre fin à la logique de guerre de l'OTAN, mais aussi se libérer du joug européen. Alors de tout cœur, je souhaite beaucoup de courage à Fabien Roussel s'il veut parler de socialisme en restant dans la zone euro. L'Union européenne a été faite pour empêcher précisément le socialisme. C'était même son but premier. Bon courage aussi à Laurent Brun s'il veut rester à la Confédération européenne des syndicats, qui est europhile, eurolâtre même, qui est totalement soumise au capital. Donc bon courage à eux s'ils veulent réformer l'irréformable. En attendant Godot, en attendant cette Europe sociale qui n'arrivera jamais, dans le cadre actuel, c'est impossible. C'est la droite et l'extrême droite qui occupent la totalité du courant de la contestation que nous avons déserté. Je vous rappelle que le concept de souveraineté nationale est né dans nos rangs. Il est né à Valmy. Et c'était des trains de savates qui étaient à Valmy. C'est le peuple. Alors, je suis en train de dire que la censure du débat sur l'euro n'est pas seulement antidémocratique, elle est simplement suicidaire. On ne reconstruira pas de perspective socialiste, ni même sociale, modérément sociale, sans remise en cause radicale de l'euro. Troisième point, et dernier, je terminerai là-dessus, l'anticapitalisme. Ça signifie quoi ? Ça signifie nécessité de rompre avec le système de domination du capital, qui est à bout de souffle, qui est dépassé, qui est devenu totalement, presque totalement destructeur, qui est tout simplement criminel. Donc l'alternative anticapitaliste, c'est la transition socialiste. Il n'y a pas d'autre voie. Ça veut dire quoi concrètement pour nous ? Ça veut dire des services publics forts, très forts, qui sont conditions de la citoyenneté. Ça veut dire une planification. Pourquoi ? Pour appliquer une stratégie de développement socialiste, bien évidemment. Ça veut dire un contrôle de la monnaie, un contrôle de la banque, un contrôle des secteurs stratégiques du pays. Donc, bien sûr, se repose la question des nationalisations. Elle est complexe, il faut la repenser totalement par rapport à ce qui a été fait dans les décennies 80. Mais cette question est incontournable, celle des nationalisations. Ça veut dire une propriété des ressources naturelles collectives et une priorité absolue à la protection de la nature. Ça veut dire des formes de propriété diverses, mais orientées vers la socialisation des forces productives. Ça veut dire des hausses fortes des revenus du travail, rapides, avec un objectif de justice sociale, avec une optique égalitaire marquée. Ça veut dire des relations extérieures dominées par l'échange gagnant-gagnant, par la paix, fondée sur la paix. Ça veut dire aussi, bien sûr, une forme de démocratie politique élargie, non pas fictive comme aujourd'hui, mais participative, authentique, rendant possible les choix collectifs stratégiques. En clair, et pour terminer, il nous faut délégitimer le capitalisme qui promet l'abondance et qui généralise la pénurie. On le voit aujourd'hui, pénurie de tout, de coton-tige, de tout. OK ? Délégitimer le capitalisme qui vend du bonheur en publicité et qui nous offre la pire crise depuis 1945, qui sacralise la liberté individuelle et qui démantèle nos droits de manière de plus en plus violente, qui parle de démocratie, il n'y a pas un discours de pro-capitaliste sans le mot démocratie, comme s'il l'avait breveté, comme si ça leur appartenait. Donc, délégitimer le capitalisme qui parle de démocratie, mais qui impose la dictature de la finance. Camarades, on n'aménage pas une dictature, on la combat. L'ordre du capital financier, aujourd'hui, est une dictature. Notre devoir, c'est ce que je pense, Notre devoir est d'y mettre fin.
Exécutant nous des gommes, on ne peut plus reculer. Il est temps de mettre la gomme. Quand des zadistes nous prouvent qu'il fait bon d'être autonome, face à 200 anards, ils envoient 2500 hommes. Grévistes, ne laissez personne vous dire que l'on chôme. Y'a du pain sur la planche, une révolution en somme. Pas besoin d'être élu pour prendre sa part de pouvoir. C'est ici et maintenant que surgit un nouvel espoir. Personne ne nous représentera mieux que nous-mêmes. Utopiste debout, c'est la démocratie qu'on sème. En prison, à présent, les patrons du CAC 40. C'est nous qui travaillons et eux qui accumulent les rentes. Et quand nous aurons nationalisé Pernod Ricard, enfin de partie, le pastis sera obligatoire. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit des banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit des banques. Monsieur le Président, on vous a fait des lettres que vous lisez peut-être pour rire de nos engagements. Mais l'heure n'est plus au dialogue social. L'insurrection qui vient va déminer le terrain des bullshit gouvernementales. Vous avez lancé le cochonnet à des kilomètres. Mais quand viendra notre tour, on va vous envoyer paître. Vous connaissez mal nos troupes, vous avez des lacunes. Face à vous, notre groupe est prêt à décrocher la lune.
Alors, tu tires ou tu pointes?
On pointe une première boule vers l'égalité des chances. Contre la sélection, on motive la jeunesse de France. On pointe la fraternité pour lui donner du sens. SDF et migrants, tire sur votre indifférence. On tire sur les vrais assistés de la République. Les actionnaires, les rentiers, tout ce qui accumule du fric. On mettra au cachot les évadés fiscaux qui piquent l'argent utile pour pointer vers de meilleurs services publics.
Celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit des banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit des banques.
Alors, tu tires ou tu pointes?
On tire sur la maltraitance institutionnelle. Quand l'État voit les patients comme une clientèle. Dans l'hôpital, l'urgence est de recruter du personnel. Travailleurs des EHPAD, c'est l'heure de mettre le bordel. Et quand on veut pointer le cochonnet d'écologie, on est gêné devant par les boules des lobbies de Lactalis, du pétrole, de la viande, du nucléaire. C'est pas la chouette Hulot qui fera de l'énergie solaire. Occupation d'amphi, d'usines, de raffinerie, grève générale, reconductible à l'infini. Négation d'un pouvoir qui s'est auto-établi. Les ruisseaux de colère forment un fleuve qui s'unit. Là voilà leur théorie du ruissellement. Sauf qu'ils se sont trompés, il ne s'agit pas d'argent. L'argent donné aux riches, on n'en voit jamais la couleur. La seule chose qui ruisselle, c'est notre rancœur. Il est grand temps pour nous de brûler leurs institutions, d'en arroser les centres de nos contestations, d'utiliser comme tuteur toutes nos convictions pour que pousse sous le soleil une nouvelle constitution. Y'a pas assez de place dans une chanson pour tout dire sur leurs crimes, leurs meurtres, leurs mensonges, leurs délires. Syndiqués, partisans, autonomes, insoumis, si nous sommes tous ensemble, nous pouvons les mettre fanny.
Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir
détruit les ponts qu'ils avaient fait le serment.
Radio Campus Lille 106,6, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Donc merci aux organisateurs du débat, effectivement. Alors le capitalisme répond-il aux besoins? Bon, personne ne sera surpris dans le fait que je réponde non. Il ne répond pas aux besoins individuels des salariés, puisque les salaires sont insuffisants. On en a la démonstration en ce moment avec les personnels de santé qui finissent par quitter leur travail, qui est pourtant un sacerdoce, une vocation pour eux, et malgré ça, n'arrivant plus à en vivre face aux contraintes qu'ils procurent, ils se décident la mort dans l'âme à le quitter. Et ça, c'est pas un cas exceptionnel lié à une crise sanitaire particulière. Il y a un très grand nombre de métiers aujourd'hui dans lequel les salaires sont très insuffisants. Ça débouche sur des symptômes, on va dire, comme un certain nombre de postes non pourvus dans le bâtiment, dans un certain nombre de d'entreprises, parce que on ne paye pas assez les salariés. Et puis, ça débouche aussi sur un nombre de travailleurs pauvres qui est extrêmement important. En France, pays qui doit être 6 ou 7e puissance mondiale en termes économiques, on a 2,1 millions de travailleurs pauvres. Et ça, évidemment, ça, c'est une démonstration également que le capitalisme ne répond pas à ce besoin individuel du salaire pour vivre. Il ne répond pas non plus sur les conditions de travail, puisque les conditions de travail ne sont pas bonnes. C'est les principaux éléments sur lesquels les employeurs font pression pour gagner en productivité. On augmente les cadences, on augmente l'intensité, on dégrade les conditions générales par la multiplication du travail de nuit ou des choses comme ça, et on n'utilise pas la technologie pour améliorer les conditions de travail, par exemple l'automatisation et l'informatisation, le recours à l'intelligence artificielle qui se développe aujourd'hui, avec des traductions comme les caisses automatiques dans les banques ou dans les grandes surfaces, ne sont pas créés pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais au contraire, pour accroître la productivité et la pression sur eux. Donc, on a comme traduction des accidents, de la dépression, avec ce qu'on appelle maintenant, de manière moderne, les burn-out. Il y a beaucoup de signes sur le fait que, du point de vue individuel, le capitalisme ne répond pas et crée du malaise, de la mal-vie chez les travailleurs. Et puis, le capitalisme ne répond pas non plus de manière collective, puisque les salariés ne sont pas maîtres de leur production. C'est le système qui organise les capacités de production, et il le fait selon la profitabilité de ces productions. Donc, il y a de plus en plus de divergences entre l'organisation de la production, ce qui est produit de manière réelle, et les besoins collectifs. On a par exemple des activités qui sont complètement détruites. Rémi faisait pas référence à la question de l'environnement. Ben aujourd'hui, le système capitaliste et les règles de marché telles qu'elles fonctionnent font que, par exemple, dans le transport, on privilégie systématiquement la route pour des questions d'économie et d'organisation fiscale et réglementaire de ce mode-là, parce que c'est le mode le plus profitable par rapport au train, qui, lui, est pourtant le mode le plus écologique. Et donc, le train est en train de disparaître, notamment dans le transport de marchandises. Et donc, on voit bien que l'organisation des forces de production est défaillante de ce point de vue-là. Il y a des activités qui disparaissent purement et simplement. Ce n'est pas simplement une question de concurrence internationale ou choses comme ça. Le transport ne sera jamais délocalisé. Par contre, il disparaît purement et simplement. D'autres activités, elles, sont effectivement délocalisées dans une espèce de concurrence mondiale déchaînée. Et ça aboutit à des paradoxes. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, qui est un secteur pourtant qu'on pourrait penser en pointe en France, eh bien, on produit 400 000 véhicules de moins que ce qu'on immatricule en France. Donc, on est dans un déficit de production et malgré ça, on ferme quand même des usines. On a là aussi le symptôme d'une défaillance, d'une inefficacité du système. Pendant la crise, on l'a vu sur de nombreux éléments. Alors, il y avait bien sûr les médicaments, alors les cotons-tiges auxquels faisait référence Rémi. Et puis, il y avait aussi, par exemple, les sacs en papier de farine. En France, on manque pas de transport pour transporter la farine, on manque pas de blé pour fabriquer de la farine et on manque pas d'industrie pour fabriquer de la farine. Mais par contre, les sacs en papier, ils ont été délocalisés, sont produits en Chine et donc on n'avait plus de farine dans les grandes surfaces puisque les frontières étaient fermées. Donc là, c'est vraiment des symptômes de la désorganisation créée par le système. D'autres activités, à l'inverse, sont excédentaires par rapport aux besoins. Alors en France, c'est principalement l'industrie du luxe et l'industrie de l'armement. On produit beaucoup dans ces domaines-là et probablement beaucoup trop par rapport à ce dont on aurait réellement besoin. Et puis, ce n'est pas valable uniquement dans l'industrie parce que l'organisation des forces productives par rapport aux besoins sont également, alors les forces productives entre guillemets, bien sûr, mais sont également en défaillance dans les services. On l'a vu avec les EHPAD. Aujourd'hui, on a un marché qui organise de manière complètement défaillante, la réponse aux besoins liés à la dépendance, notamment des personnes âgées ou des personnes handicapées. Dans ce domaine-là, des services, on a beaucoup d'exemples également où les besoins ne sont pas satisfaits ou malgré tout, on ne crée pas les emplois, on ne crée pas les structures qui seraient nécessaires. Également, la recherche, puisqu'on a des orientations de la recherche et des produits de la recherche qui sont complètement défaillantes. Et il y a eu récemment une alerte de l'OMS qui interpelle les pays riches pour dire si on ne réunit pas les conditions de partage des savoirs sur la question du vaccin qui devrait être trouvé sur le Covid, et notamment du partage des savoirs avec les pays africains et asiatiques qui sont aujourd'hui désindustrialisés, on réunira les conditions de poursuivre la pandémie malgré le fait qu'on ait trouvé ce vaccin. Et donc, il faut dépasser les règles de marché pour, sur cette question du vaccin, arriver à répondre aux besoins sanitaires. Évidemment, ce n'est pas valable que sur les vaccins, c'est valable sur d'autres éléments aussi de la recherche scientifique, sur les questions environnementales notamment. Malgré la profitabilité des entreprises, et notamment des entreprises françaises, qui sont très profitables, le système ne développe plus les investissements productifs. Là aussi, c'est une défaillance. On nous expliquait que les capitalistes font des profits qui leur permettent d'investir et de développer les forces de production. Mais depuis la fin des années 90, c'est plus vraiment le cas. On a un taux d'investissement qui a complètement décroché par rapport au taux de marge. Et pour vous donner des chiffres, sans vous abreuver de chiffres, en 1980, on avait 22% d'investissement pour 25% de marge des entreprises françaises. En 2015, on a 23% d'investissement, donc ça n'a quasiment pas augmenté, pour 34% de marge des entreprises. Donc là, par contre, ça a augmenté de 50%, évidemment, au détriment du travail. Donc, le capitalisme est défaillant sur tous les aspects, le développement des forces productives, l'organisation des forces productives, l'organisation des entreprises elles-mêmes, puisque à l'intérieur des entreprises, la structuration qui est de plus en plus mise en place avec les fonctionnements sur zéro stock en flux tendu, avec les sous-traitances en cascade et les choses comme ça, sont efficaces du point de vue capitalistique pour rincer, on va dire, la chaîne de valeur de manière à créer du profit à chaque étape de production et en multipliant, en segmentant la production. Mais par contre, c'est complètement inefficace du point de vue de la production elle-même. Et si on avait une chaîne de production réunifiée avec une organisation différente et peut-être effectivement en lien avec ce qui était dit, un peu plus de centralisme, un peu plus de planification, un peu plus d'organisation, on aurait une productivité au sens technique bien plus importante. Donc, on a de plus en plus de profits, on a de moins en moins d'emplois et de moins en moins bonne qualité. Donc, le capitalisme, non, ne répond pas aux besoins des salariés et de la population.
Merci. Et du coup, quelles sont les réponses immédiates, concrètes, syndicales que vous apportez à cet état de fait, déjà ? Qu'est-ce qu'on a en mesure d'opposer à la fois syndicalement et peut-être politiquement, je ne sais pas si tu en diras un mot, mais en tout cas, au moins syndicalement, qu'est-ce qu'on oppose à ce capitalisme-là ?
Alors, syndicalement, les syndicats contestent les licenciements, ils contestent la case des droits sociaux, ils se battent sur la question des salaires. Les formes d'action, on les connaît, c'est les manifestations, les pétitions, la grève, évidemment. Et on a un mouvement social qui, même s'il est insuffisant en France, est quand même important ces dernières années. En 2018, il y a eu beaucoup de conflits sectoriels durs, On se souvient peut-être pas forcément, mais on a eu un conflit dans la pénitentiaire, on a eu le conflit des cheminots sur la réforme ferroviaire qui a duré plus de 3 mois, on a eu des journées de mobilisation générale des fonctionnaires qui étaient extrêmement puissantes, des journées de mobilisation des retraités extrêmement puissantes également, on a eu un mouvement lycéen cette année-là, on a eu des séquences de grève d'Air France avec au final un référendum qui s'est terminé comme on le sait, et puis évidemment on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui pour moi est un mouvement sectoriel, donc c'est pas un mouvement révolutionnaire en tant que tel. Par contre, c'est un mouvement dans un secteur de avec des salariés et des non-salariés qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir mobilisés. Et donc tout ça exprime une conflictualité importante dans la société française et dans l'économie française. En 2019, on est reparti là-dessus puisqu'on a eu le conflit de Radio France, hein, le plus long conflit de Radio France de l'histoire de la radio. On a eu les journées des pompiers, on a eu des actions très très fortes de la santé qui déjà annonçaient les prémices de la crise sanitaire. Et puis évidemment le conflit des retraites qui a été insuffisant mais massif. Donc, les syndicats agissent sous cette forme-là de manifestations, de grèves. Ils développent aussi des revendications sur l'organisation de la production, plus offensive, on va dire, moins défensive, sur les investissements à réaliser, sur l'emploi à créer, sur la répartition des richesses dans l'entreprise et dans la société, et puis même le développement de filières, puisqu'il y a maintenant des contre-projets. Des fois, on s'imagine un peu patron à la place des patrons. Donc, y compris, on voit que par leur savoir-faire, quand on organise les salariés dans le syndicat, ils sont capables de trouver des solutions pour organiser leur entreprise, pour développer les choses de manière plus juste. Donc ça, c'est un tout petit bout de solution, on va dire. On a aujourd'hui 10 à 11% des salariés qui sont syndiqués, donc c'est insuffisant, mais c'est pas négligeable. Et ces forces-là, elles agissent, parfois elles s'agitent, et donc il y a la question du sens et de la convergence, mais en tout cas, il y a une réaction syndicale on va dire insuffisante mais non négligeable.
Du coup, tu parles de ces réponses qui sont insuffisantes mais qui existent quand même, il faut le souligner, mais du coup pourquoi elles suffisent pas, ces réponses? Pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ces réponses là
Alors, ces réponses, elles suffisent pas parce que, bon, d'abord, il y a des dynamiques internes aux organisations syndicales qui sont parfois en lien avec les orientations politiques et parfois en lien et parfois pas en lien avec ces orientations politiques. On a des questions d'organisation ou de choses comme ça. Cette réaction syndicale, même si elle était beaucoup plus forte, elle ne suffirait pas en elle-même parce que, d'abord, les revendications butent sur le fonctionnement du système, pas seulement sur le rapport de force qu'on développe dans l'entreprise ou dans le groupe. Il y a un certain nombre de règles qui créent de l'inertie dans le système. On a par exemple le contexte économique, les relations que l'entreprise peut avoir avec ses clients, ses fournisseurs, les menaces de liquidation, et en ce moment on en a beaucoup, les menaces de prédation avec des discours patronaux qui visent à essayer d'inclure les salariés dans leur logique, avec l'argumentaire qu'on connaît un peu tous, hein, nous ne faisons pas assez de profit, notre action baisse, nous risquons d'être rachetés par un groupe plus gros que nous, et donc on est tous dans le même bateau, il faut faire des efforts, évidemment les efforts sont toujours pour les salariés, mais ça c'est une force d'inertie du système, et les entreprises les unes avec les autres sont solidaires. Quand vous avez une entreprise qui essaye de sortir du lot quand une entreprise essaye de sortir du lot dans sa politique sociale, et notamment quand il y a des acquis sociaux importants, il peut y avoir des décisions de filière des employeurs pour casser cette entreprise, pour l'abandonner de manière à détruire les choses. Il peut y avoir aussi des relations de solidarité pour aider les patrons à tenir. On se rappelle de la caisse noire de l'UIMM qui a permis de faire face à des conflits localisés. Et puis, on a un environnement, le capitalisme, c'est un écosystème, des lois et des règlements qui sont le produit de rapports de force qui n'est pas forcément favorable aux salariés et qui a été souvent favorable aux patrons. Et par exemple, effectivement, Rémi faisait référence, mais les règles de concurrence obligatoire au niveau européen sont un frein à tout un tas de choses, et notamment aux nationalisations ou au développement de monopoles publics, etc. De la même manière que les règles sur la liberté de commerce en France sont un frein. Donc, dans le système administrativo-judiciaire, on va dire, il y a tout un tas de règles qui posent des obstacles à la bataille syndicale et qui ramènent les syndicats, finalement, qui contraint, on va dire, leur activité, qui entrave leur activité et qui ramène l'activité syndicale souvent sur des compromis. Alors, les compromis sont plus ou moins favorables en fonction des rapports de force, mais ça reste des compromis qui donc sont en permanence menacés par la lutte de classe que mène le patronat et menacés par tous les éléments que je citais précédemment. Donc, il est indispensable de changer le cadre, et on doit poser la question du cadre, du système, de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, pour aller au bout de la satisfaction des revendications. Et ça nous pose une question qui est très très politique, hein, c'est si le système capitaliste organise mal les choses, s'il ne répond pas aux besoins, s'il limite les revendications par tout l'ensemble de son fonctionnement, alors il faut un autre système, hein, d'autres mécanismes, d'autres règles, et donc il faut les caractériser. Alors certains défendent un syndicalisme de lobbying, hein, puisqu'il y a des débats dans la société et dans le syndicalisme, hein, qu'un syndicalisme de lobbying, y compris pour peser sur la loi, en disant dans le système actuel, on peut changer une loi, donc on va faire pression pour changer cette loi. Mais on est toujours dans ce système de compromis dans lequel on est, notamment au travers du lobbying, dépendant un peu de ceux qui ont le pouvoir, qui sont souvent des capitalistes et qui donc ne vont pas facilement et dans la joie remettre en cause leurs intérêts. On est toujours dans la limite des revendications par cet écosystème administrativo-judiciaire, etc. Et donc, la difficulté, c'est d'aller au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peser sur les lois et réclamer d'autres lois, par exemple défendre le code du travail, des choses comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ça ne peut pas être l'objectif en soi, ça ne peut pas être l'aboutissement de la bataille. Il faut aller plus loin. Donc même dans le cas, on le voit, hein, même dans le cas de réformes extrêmement progressistes, comme par exemple la création de la Sécu, il a fallu faire des concessions, et notamment des concessions aux agriculteurs, aux indépendants, aux cadres, qui du coup ont maintenu des particularités et des spécificités qui mettaient des coins dans le système universel. Il a fallu maintenir une industrie pharmaceutique privée qui est toujours un parasite du système de santé français et du système d'assurance sociale tel qu'on la connaît. Et puis il a fallu maintenir une médecine générale libérale, par exemple, qui handicape fortement l'efficacité du système. Et puis très rapidement, cette réforme de la Sécu, de création de la Sécu, elle a été très rapidement contestée, attaquée, et la gestion ouvrière a été remise en cause. Et aujourd'hui, on est sur une forme d'étatisation progressive, mais qui avance fortement, de cette Sécu, avec de moins en moins de couverture et de moins en moins universelle et de moins en moins efficace. Donc, oui, il faut se battre pour organiser la lutte. Oui, on peut passer des compromis, mais ces compromis ne peuvent pas être un aboutissement en soi. Il faut donc plus qu'une réforme, il faut une rupture systémique, il faut changer les règles, il faut renverser la table d'une certaine manière pour aller au bout de notre satisfaction des revendications.
Merci. Et du coup, cette rupture, comment tu la qualifierais? Quelle serait sa nature? Qu'est-ce que tu mettrais dans cette rupture? Parce qu'au fond, rompre, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Comment tu la verrais?
Ben d'abord, à partir du moment où je considère que le système est un ensemble de lois, de règles, de principes de fonctionnement, je veux une rupture globale, de manière à ne pas être en permanence empêtré, arriver à changer un bout, mais être empêtré dans l'ensemble des autres bouts qui finalement reconquièrent le terrain que j'ai pu conquérir. Donc, le changement de système, ça doit être caractérisé, c'est le socialisme, pour établir un processus, des règles, des pouvoirs, qui prépare le passage à la société sans classe. C'était un peu détaillé par Rémi sur la question finnoise. Voilà, un processus, des règles, des pouvoirs, des fonctionnements, des interventions qui permettent de petit à petit mener la bataille avec le capitalisme pour le priver de sa capacité de nuisance. Et depuis la fin des années 90, ce qu'on peut dire, c'est que les capitalistes, ils ont le rapport de force et ils ont l'hégémonie idéologique parce que nous avons été privés de capacité à penser cet autre système et à le caractériser. La pression idéologique, elle est extraordinaire sur nous et sur l'ensemble des militants. Le socialisme, c'est la dictature, c'est les millions de morts, c'est la ruine, c'est les tickets de rationnement, c'est la bureaucratie parasite, etc., etc. Enfin, on en a tous entendu des caisses sur le sujet. Il n'y a pas d'alternative. Nous sommes interdits de penser autrement parce que penser autrement, c'est la dictature, etc. Récemment, ils ont même été jusqu'à, au niveau européen, valider une règle, je ne sais plus ce que c'était, qui associait communisme à nazisme. Et donc, vous pensez à autre chose, vous pensez à un autre système, vous êtes un nazi, quoi. Alors évidemment, ça refroidit les moins politisés, les moins conscients des militants. Du coup, les luttes, elles sont essentiellement défensives et elles sont assez souvent perdantes. Quand je dis ça, je ne dénigre pas les luttes qui sont menées. Moi, j'en ai organisé des colossales ces derniers temps, et j'en suis fier, et je pense qu'il fallait le faire, et nous avons fait le maximum de ce qu'on a pu pour gagner le plus de choses possible. Mais force est de constater quand même que nous sommes assez souvent perdants sur nos revendications, nous n'obtenons pas satisfaction. Ça crée un effet domino de la défaite, qui fait que beaucoup de militants syndicalistes et de militants en général se concentrent sur ce qui est le plus accessible, le local, les préoccupations immédiates des salariés. Ça aussi, c'est nécessaire, hein, évidemment. L'idée, c'est pas faire que de la théorie. On doit mener pied à pied la bataille sur les éléments même les plus concrets, les plus évidents. Mais c'est pas suffisant. Sinon, on réduit petit à petit la portée de notre action, et à la fin, on accepte que les capitalistes dirigent la société, et qu'on se contente d'accompagner la mise en œuvre dans le cadre fixé, en ne trouvant finalement des palliatifs aux conséquences sociales. Donc il faut impérativement aller plus loin que simplement ces batailles locales et mener des batailles sur le système. Je rajoute que ne pas caractériser l'alternative, ne pas parler du socialisme, ça crée aussi des illusions. Parce que on a vu un certain nombre d'élus politiques, mais pas seulement, hein, y compris de militants divers, critiquer le système, mais qui restent silencieux sur l'alternative qu'ils souhaiteraient mettre en place. Ils sont anti-libéraux, ça c'est plutôt à la mode. On a même vu Montebourg qui est maintenant anti-mondialisation. On a vu Hollande qui était l'ennemi de la finance, etc. Mais par contre, ils sont pas marxistes. Ils n'affirment pas leur volonté de passer à un autre système, et donc notamment le socialisme. Le résultat, c'est que il n'y a pas beaucoup d'autres théories économiques, hein, donc entre guillemets, dès qu'ils sont au pouvoir, ils se révèlent au mieux keynésiens, au pire libéraux, néoclassiques, comme leurs prédécesseurs, et donc de toute façon sociaux-démocrates. Ils ne vont pas au bout des promesses qui ont été faites, parce qu'évidemment, pour satisfaire les promesses qui sont faites, il faut changer les règles du système. Donc, les salariés sont déçus, les fascistes progressent dans cette ambiguïté-là, et moi, je pense que si tout ne repose pas sur nos épaules, quand même, une bonne partie de la situation, à la fois les défaites syndicales, à la fois la progression du fascisme, s'étend sur le fait que nous ne caractérisons pas et nous ne nous réarmons pas sur l'autre système que nous souhaitons. Donc il faut se réarmer, il faut réaffirmer la nécessité du socialisme pour clarifier les positions de chacun, parce que ça permet de dévoiler les imposteurs, pour dédramatiser cette question du socialisme, parce que moins on en parle, plus on est soumis à l'attaque, aux attaques et à la culpabilisation. Et puis, il y a nécessité de rediscuter de son contenu pour donner des perspectives syndicales, pour inscrire justement les luttes syndicales dans un cadre plus global de remise en cause des règles. La CGT est née d'une certaine manière là-dessus, puisque On parle chez nous beaucoup, souvent, de double besogne, à la fois le quotidien et en même temps la remise en cause du système et du salariat. Donc, il faut revenir à cet élément-là pour se réarmer. C'est absolument indispensable et en tout cas, moi, en tant que militant syndical, j'en ai besoin.
Certaines dans le creux de la main vous prédisent beau lendemain. Ils sont les gens avec le hatch mamba à promettre les bars ici sous la djellaba. Moi quand je crois c'est pas je coche à garder les deux mains dans les poches et pragmatique comme un écossais. Moi dans les mains je lis plutôt le passé. J'ai vu les mains de mon daron, j'ai pas aimé. Je me suis dit c'est pas sommage qu'elles se sont abîmées. Des sillons, des crevasses et des cornes, comme si elles avaient traversé de Cap Horn.
Pour vivre heureux, vivre fâché, chiche vivant, les mains cachées. Petit conseil à tous les proches, vivant mais vivant, les mains dans les poches.
Je leur ai promis de la mousse, qu'elles seraient parfumées aux amandes douces. Jurez le diable qu'elles seront pas mal loties, jamais elles s'approchent de la cabane à outils. Quand j'ai vu les mains du daron la serrer, saurer, fissurer toutes les rimes manguées. Putain de main, depuis j'ai pas eu envie de savoir ce que fut sa vie. Je leur ai promis, elle dit les deux tailles, qu'elles finiraient en éventail les doigts de pied, les doigts de main, et sans attendre le lendemain.
Pour vivre heureux, vivons fâchés, chiche vivant, les mains cachées, petit conseil à tous les proches, vivant mais vivant, les mains dans les poches.
Jamais vous connaîtrez ces trucs cruels que sont commandés dans les métiers manuels. Mes mains jamais, oh non jamais, ne connaîtront la formule du béton armé. Je vous ferai faire un détour devant un cri ou une roue ou de secours. Jamais on n'ira, parole de fils d'esclave, ni dans le grenier, ni dans la cave. Mais dans quelques coins de ce monde nouveau, où on écrit ici, on bosse avec son cerveau. Jamais, jamais, aux mains, vous serez exposés à cet impératif creusé, creusé. Sous peine d'apparaître sur un écran plat, dans le fichier du Pôle emploi.
Pour vivre heureux, vivons fâchés, chiche vivant, les mains cachées, petit conseil à tous les proches. Vivant mais vivant, les mains dans les poches. Pour vivre heureux, vivons fâchés, chiche vivant, les mains cachées, petit conseil à tous les proches. Vivant mais vivant, les mains dans les poches.
Camarades, écoutez la radio attentivement, les lundis à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Je pense que sur l'ensemble des éléments, que ce soit juger ce qui se passe dans le monde, que ce soit reconstruire le parti ou que ce soit reconstruire le rapport de force, la nécessité c'est le travail. Je donne quelques exemples. D'abord sur la Chine. Objectivement, on peut s'interroger sur plein de trucs. Moi, je n'ai pas une connaissance extraordinaire de la Chine, je m'interroge sur des choses. Mais on manque de travaux concrets et les éléments concrets que moi, j'ai pu voir sont des réalisations quand même qui sont à mettre en débat. Par exemple, la Chine est passée de 1 000 dollars à 10 000 dollars de salaire moyen en quelques années. Alors, on est encore loin des 40 000 dollars de salaire français, mais néanmoins, on est très, très au-dessus de l'Inde qui stagne à 2 000 dollars par an. Ça, c'est une réalisation pratique. Et du point de vue de la construction, des forces de production, il y a 20 ans, il y avait 0 km de LGV en Chine. Aujourd'hui, il y en a 36 000 km. Et l'objectif, c'est 70 000 km en 2035. C'est-à-dire qu'en 35 ans, ils auront construit 70 000 km de lignes à grande vitesse au niveau du train. En France, en 40 ans, on en a construit 2600. Donc, même rapporté à la population, c'est quand même supérieur à ce qu'on a été capable de faire alors que nous sommes un pays industrialisé. Donc, il faut mettre ces éléments-là. Les réalisations, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Peut-être qu'à un moment donné, elles seront comme chez nous, privatisées, captées par les capitalistes, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas et ces réalisations, elles existent. Et dans beaucoup d'autres pays qui partent de rien et qui construisent des choses, on n'a pas cette dynamique-là. En France, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut ? Et moi, je pense qu'il faut… Alors, pour le coup, je suis intéressé par la Chine, mais je ne l'observe pas comme un modèle. Je l'observe comme des éléments de contradiction du système, de critique et d'intérêt. En France, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous, dans notre système français ? Et je donne l'exemple des services publics, parce que je pense que, parfois, même les jeunes… ont tendance à être conservateurs sur cette question. Les services publics, c'est pas seulement l'hôpital, l'école, le transport, l'énergie. Oui, il faut les préserver, il faut les réactiver, ces services publics-là. Mais par exemple, aujourd'hui, le meilleur moyen de les défendre, c'est peut-être de montrer que le capitalisme, dans d'autres domaines, ne répond pas et qu'on aurait besoin de services publics. On aurait besoin, par exemple, de services publics de la grande distribution. On aurait besoin de l'appropriation collective des grands moyens d'échange en termes de grande distribution. Pourquoi ? Parce que ce serait un outil à la fois d'orientation des flux de transport sur des modes doux, de choix des producteurs, et on arrêterait d'aller chercher les producteurs très très loin parce qu'il y a un bas coût de main d'œuvre et on prendrait des producteurs locaux, etc. etc. Donc la grande distribution deviendrait un outil collectif d'émancipation, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Et de la même manière, on utilise en ce moment Internet et les nouvelles technologies. Il y a un problème de stockage des données aujourd'hui, puisque les clouds, comme on appelle ça, sont essentiellement basés aux États-Unis et sont quasiment tous privés. La question, c'est pourquoi ne pas créer un état civil 2.0 et créer un grand service public de la donnée pour que le stockage de cette donnée soit respectueux en termes énergétiques de l'environnement et pour que l'utilisation de ces données ne soit pas destinée au commerce, mais soit destinée à l'amélioration de la vie des gens. Il faut qu'on se pose des questions comme ça pour bousculer les capitalistes sur leur situation. Et donc, les luttes, comment les mener ? Moi, je pense qu'il faut bannir les slogans, ou en tout cas… essayer d'en avoir le moins possible et les raccourcis, s'affûter idéologiquement, donc travailler sur l'idéologie, débattre de l'idéologie, accepter le principe d'une ligne, c'est-à-dire qu'on s'entend sur ce qu'on définit comme étant les meilleures idées. Et donc, ça veut dire qu'on se confronte, mais qu'à un moment donné, on tranche quand même sur ce qui est l'orientation. Retrouver la science de l'organisation. Le parti est désorganisé, le mouvement syndical est désorganisé. Les militants communistes étaient les militants qui, avec trois bouts de ficelle, savaient organiser des choses. Il faut retrouver cette science de l'organisation en reconstruisant des structures, etc. etc. Je ne vais pas plus loin. Sur les Gilets jaunes, juste un mot. Pour moi, les Gilets jaunes ne sont qu'un mouvement parmi d'autres, je l'ai dit, et j'explique. Tous les mouvements sociaux de 2018 ont été traités de la même manière. Dans un premier temps, le gouvernement a peur et déstabilisé, et donc il fait des concessions, et il faudrait discuter des concessions qu'il a faites aux Gilets jaunes. Moi, je conteste formellement qu'ils ont obtenu des acquis. Le prix de l'essence aujourd'hui, il est plus important qu'à l'époque. Les acquis financiers étaient hors cotisation sociale. Enfin, je détaille pas, mais les acquis, c'était peau de chagrin. Mais le gouvernement a fait quelques conceptions extrêmement limitées, comme dans les autres mouvements sociaux. Et à partir du moment où il a eu la garantie que ce mouvement ne se généraliserait pas, ne s'étendrait pas, ne ferait pas convergence avec d'autres mouvements, eh bien, il a joué la stratégie du pourrissement et de la répression. Et le mouvement a effectivement pourri. Prenez les mouvements sociaux, hein, les cheminots, les grands mouvements sociaux qui ont eu lieu dans cette année-là, eh ben, ils ont été traités de la même manière, le mouvement lycéen ou d'autres. Donc, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement parmi d'autres. Ce qui est nouveau, c'est qu'il touche une population nouvelle, mais en tout cas, ni dans la forme, ni dans son résultat, il n'apporte de démonstration. Et je pense que c'est aussi parce qu'il ne pose pas la question de l'organisation, il ne pose pas la question du pouvoir, en tout cas pas comme il faut, il ne pose pas la question du système.
sera écrit dans l'histoire que nous avons chassé les fauves de notre territoire, dégagé l'assemblée de tous les politicards, tous les menteurs, les tricheurs et les tocards. Dégagé l'assemblée de tous les politicards, tous les menteurs, les tricheurs et les tocards. Les gars de la résistance ont toujours un coup d'avance. Les tilis vont remuer les foules pour mettre un terme à tout ça et donner à tout le monde de la gaieté, de la joie. Les tilis vont remuer les foules pour mettre un terme à tout ça et donner à tout le monde de la gaieté, de la joie. Le gouvernement en cage, de faire la fête et de mettre la pagaille, avant de repartir vers une prochaine bataille. De faire la fête et de mettre la pagaille, avant de repartir vers une prochaine bataille.
Radio Campus.
El pueblo unido jamás será vencido.
106,6.
Sur la question qui a été posée directement sur le bouquin, le capitalisme face à son déclin, c'est la question qui soulevait, c'était celle de l'axe, disons, anti-impérialiste, Chine, Russie et plus largement. Ça, c'est une question tout à fait fondamentale. Être conscient de notre position par rapport à la constitution de ce front anti-impérialiste, qui n'est pas clairement anticapitaliste, évidemment. La grande majorité des pays qui participent de ce front ne sont pas anticapitalistes. Bon. Mais ils sont anti-impérialistes. Donc, c'est tout à fait important d'avoir les idées claires aussi au niveau international. Je partage totalement... La nécessité d'articuler le local et le global, le national et l'international. C'est absolument fondamental. On ne peut pas s'en sortir sans cette articulation d'une certaine manière. Mais il faut aussi savoir classer, entre guillemets, les pays, les luttes des différents pays, selon qu'ils sont plus ou moins anti-impérialistes, plus ou moins, et ou plus ou moins anti-capitalistes. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que dans ce bouquin, cet effort a été fait pour souligner l'importance de notre position par rapport au front anti-impérialiste. Bon, il y a aussi des questions très importantes qui concernent le niveau principal de contradiction aujourd'hui. Et hélas, compte tenu de notre faiblesse temporaire, la faiblesse du monde du travail, la contradiction fondamentale est interne aux classes dirigeantes et ou aux classes dominantes. Disons. On le voit clairement aux États-Unis avec la bataille entre Trump et Biden. Ils représentent évidemment l'un et l'autre des fractions des classes dominantes aux États-Unis. Bon, mais ils sont en conflit. Les uns plus globalistes, Biden et autres, les autres plus continentalistes, Trump et tout. Ce premier niveau de contradiction, si on ne l'analyse pas non plus, si on n'est pas capable de se positionner par rapport à ça, on ne va rien y comprendre, on va se faire balader par les médias dominants. Voilà, ça c'est le premier point rapidement. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment, vraiment rester modeste, très modeste et en même temps très ambitieux. Plusieurs camarades l'ont dit, on ne sait pas grand-chose hein, finalement sur Cuba, on ne sait pas grand-chose sur le Vietnam, on ne sait pas grand-chose sur la Chine, d'autant qu'on ne travaille plus ces questions-là. On s'en fout un peu, quoi. Enfin, on ouvre le journal les médias dominants et puis on se contente de faire des petites synthèses de ça. Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment retravailler, il faut arrêter de donner des leçons, dans quelque domaine que ce soit, surtout des leçons de démocratie. Il faut vraiment arrêter avec ça et il faut se mettre au travail. Voilà, ça c'est ma position. Alors maintenant, il y a des questions très très sensibles que moi je ne souhaite pas vraiment développer ici, mais qu'il faut quand même poser. D'abord, la primauté des luttes sur le terrain, en entreprise, à la base, ça c'est le plus important de tout. Un nombre colossal de camarades ou de gens, comme on dit maintenant, luttent sur le terrain. Bon. Et il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Une grande partie d'entre eux, quand ils commencent à lutter de manière organisée, disons plus organisée que dans un combat individuel désespéré, on va dire, perçoivent souvent les directions partisanes et syndicales comme des freins aux luttes. Ça, c'est une question incontournable aujourd'hui. Incontournable. On l'a vu de manière brutale dans le mouvement des Gilets jaunes, mais on le voit à la base, à la CGT, à la base aussi au parti. Donc, comme disait l'autre, tirer sur le quartier général, je crois que il ne s'agit pas de faire de provocation ni de division, hein, ce n'est pas du tout dans mon intention, mais s'interroger sur le rôle pro-systémique, y compris du parti et de la CGT, je crois qu'on peut pas faire l'écart de cette question. Maintenant, ça veut dire aussi que il y a tout un tas de questions qui sont souvent évacuées. Par exemple, les cités. Bon, moi je les vois très souvent. Bon, maintenant elles sont complètement laminées. Elles ont été livrées à toutes sortes de forces destructrices, disons. Mais pendant très longtemps et encore aujourd'hui, les luttes populaires dans les cités, les quartiers de banlieue, étaient, selon moi, le premier front antifasciste en France. Bon, ça, j'ai jamais vraiment trouvé de réflexion sur cette question-là. Je vais très très vite. Ensuite, les énormes problèmes, c'est qu'il n'y a plus d'organisation dans le parti, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de travail théorique, il n'y a plus de POLEX, il n'y a plus rien. Disons-le franchement, hein, on ne va pas mettre des pincettes, on n'est pas là pour se faire des politesses et des salamalecs. C'est un problème absolument fondamental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus de programme. Bon, on n'a plus de programme économique, on n'est que dans le sociétal. On n'a pas grand-chose à dire sur l'écologie, et c'est sûr qu'on ne peut pas compter sur nos écologistes qui n'ont pas encore compris que le capitalisme allait détruire la planète. Hein, ça c'est, ils n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore compris, j'espère qu'ils le comprendront à temps, que c'est le socialiste, seulement le socialisme, qui les sauvera eux aussi. Bon. Mais on va leur faire jouer à ces écologistes le rôle qu'on a fait jouer à la social-démocratie pendant longtemps, récemment en France. Hein. On a eu quand même... le PS qui a, qui a, qui a tout fait pour sauver le capitalisme pendant un cycle de crise grave. Et là, on entre dans un cycle encore plus aggravé, disons, du système capitaliste. Et il est probable qu'on invite les écologistes à tenter eux aussi de sauver le capitalisme. Donc, on n'a pas de stratégie, ni de conquête du pouvoir, encore moins d'exercice du pouvoir. Bon, ce sont des questions fondamentales. Mais je crois que, pour être assez provocateur, je dirais que on a bien fait quand même de commencer par parler de socialisme. Mais peut-être qu'il faudrait aussi parler de communisme, tout simplement. Quoi. Ça, c'est une énorme question. Une énorme question. Parce que là, on a finalement, comprenez-moi bien, je fais un peu de provocation, mais pour faire réfléchir, que les camarades se reposent des questions qu'on se posait avant. Je donne quelques exemples. Est-ce qu'il n'y a pas dans la lutte syndicale une lutte fondamentalement réformiste, pro-systémique? Comment penser la lutte révolutionnaire dans une démarche qui est celle de l'amélioration du système? Évidemment qu'il faut lutter pour les intérêts de classe des travailleurs, ce que d'ailleurs la plupart des directions de partis de gauche ou de syndicats de gauche ont délaissé. Je donne un autre exemple. Se battre pour l'emploi, c'est parce que tout à l'heure, Laurent Brun a dit que le système capitaliste ne marchait pas, qu'il était inefficace, que les gens le contestaient, mais quand même, le système capitaliste, c'est surtout un système d'exploitation de classe. Donc, si on ne se pose pas la question du salariat, alors on va revendiquer, enfin ça c'est toute l'histoire du syndicalisme sur un siècle et demi, quoi. On se bat pour l'emploi, qui est un emploi salarié, c'est-à-dire on se bat pour le droit d'être exploité par les capitalistes. C'est en soi un problème, évidemment que ça paraît ridicule, mais ce n'est pas si ridicule que ça. Bon, de même pour les services publics, le combat pour le renforcement des services publics, s'il est réintégré, disons, par la machine, s'il est absorbé, s'il est digéré, les coopératives, les mutuelles, tout ça, nous montrent des exemples historiques de ça. Mais s'il est récupéré, disons, par le système, il ne va faire que renforcer l'État capitaliste. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce renforcement de l'État? C'est aussi un problème. Bon. Ensuite, il y a la question, même, je veux dire, des questions stupides, quoi. Qui n'étaient pas stupides il y a quelques années, mais elles le sont devenues parce qu'on n'y réfléchit plus. Bon, on veut des augmentations, on veut machin, on veut... Tout passe par la monnaie, mais la monnaie se transforme en capital quand même. Hein. Donc, ça, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire?
Il va falloir conclure.
Alors, je conclue en disant qu'il faut réfléchir à ces questions fondamentales qui sont des questions clés du communisme. Et peut-être que par ces questions très provocatrices, un peu spatiales, on va dire taboues, peut-être qu'on va permettre de reconstruire, d'avoir les idées claires et de reconstruire les axes d'un programme politique, parce que c'est ça qui nous manque, politique et économique, évidemment.
C'est pas facile, on se fait de la bile, la prise vide nos paniers dans les usines, plus on turbine, on reste toujours sous-payé pour les patrons. Pas de restrictions, Sarko leur file du pognon. C'est abusé, tout ça pour licencier. Nous on résiste, on se mobilise, on ne veut pas trinquer. Car cette crise capitaliste, on veut pas la payer. Pas de sacrifice, les bénéfices, il faut se partager. Tout solidaire, pas de précarité.
Front commun.
Aux tempêtes, nous file des miettes, pouvoir d'achat, il s'en fout. Des postes fermes, l'école en berne, service public, il casse tout. Bachelot décrète, l'hosto s'embête, et le privé en poche tout. C'est abusé, c'est sûr ça va péter. Nous on résiste, on se mobilise, on ne veut pas trinquer. Car cette crise capitaliste, on veut pas la payer. Pas de sacrifice, les bénéfices, il faut se les partager. Tout solidaire, pas de précarité. capitaliste, on veut pas la payer. Pas de sacrifice, les bénéfices, il faut se les partager.